VOA Afrique, les infos. À Washington.
Et Kabadou avec vous en direct de Washington pour Le Monde. Aujourd'hui, édition de 18h30 en temps universel. Bonsoir à tous, voici les titres. À N'Djamena, tenue d'un mini-sommet consacré à la lutte contre Boko Haram. Au Togo, des milliers de personnes ont manifesté contre le processus électoral en cours. Au Gabon, des syndicats appellent à une grève générale pour dénoncer l'absence du président Bongo qui poursuit sa convalescence au Maroc. La rencontre annoncée entre Donald Trump et Vladimir Poutine n'aura pas lieu au sommet du G20 à Buenos Aires. Ne manquez pas dans 10 minutes l'actualité économique. Le prix du baril du pétrole est tombé sous la barre des $50. Dans la page sportive, le Sénégal a détrôné la Tunisie à la tête du classement FIFA en Afrique. Mais tout d'abord, le journal. Une brigade de gendarmerie du nord du Burkina Faso, déjà cible d'un assaut attribué à des djihadistes début novembre, a été attaquée dans la nuit de mercredi à jeudi par des assaillants lourdement armés qui ont fait un blessé, ont rapporté des sources sécuritaires et locales, précisant qu'un élément a été blessé. Selon un bilan officiel établi fin septembre, les attaques islamistes ont fait au total 229 morts depuis 2015. Au Nigeria, les djihadistes de Boko Haram ont tué 3 soldats dans l'attaque d'une base militaire près du lac Tchad dans le nord-est du pays, où les militaires ont été mis en déroute par les insurgés qui multiplient les opérations selon des sources civiles et militaires. Les présidents du Nigeria, du Niger et du Tchad et le premier ministre camerounais se sont réunis à N'Djamena pour un mini-sommet consacré à Boko Haram. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
La réunion entre les présidents nigériens Mohamedou Buhari, nigérien Mahamadou Issoufou et tchadien Idriss Déby Itno et le premier ministre camerounais Philemon Nyang a porté sur la situation sécuritaire dans le bassin du lac Tchad. Le président Buhari avait promis avant son élection en 2015 d'éradiquer le groupe djihadiste. Quelques mois après son arrivée au pouvoir, il avait même assuré que Boko Haram était techniquement vaincu. Candidat à sa propre succession pour la présidentielle de février prochain, M. Buhari a déclaré hier devant des hauts gradés que Boko Haram devait être éliminé de la surface de la terre. Les soldats nigériens déployés dans le nord-est se sont plaints à plusieurs reprises de manquer d'armes et de vivres. Un officier nigérien a déclaré qu'une de leurs bases a été attaquée mardi par Boko Haram et les soldats mis en déroute ont perdu 3 hommes. À la mi-novembre, une faction de Boko Haram affiliée au groupe État islamique a revendiqué la mort de 118 soldats. Au Cameroun, au moins 29 personnes ont été blessées hier dans un attentat suicide perpétré par 2 femmes kamikazes à Amichidé, dans l'extrême nord du pays.
Plusieurs ONG de défense des droits de l'homme ont dénoncé les restrictions de la liberté d'expression au Cameroun qui sont, selon elles, un signal inquiétant du nouveau mandat du président Paul Biya réélu en octobre. Des milliers de Togolais étaient dans les rues de Lomé ce jeudi à l'appel de la coalition des 14 partis de l'opposition. Ils ont manifesté pour réclamer, entre autres, les réformes et l'arrêt du processus électoral en cours. Le point de Lomé avec notre correspondante Kayi Lawson.
La coalition des 14 partis de l'opposition a battu le pavé pour exiger l'arrêt immédiat du processus électoral en cours. La mobilisation était forte comme lors de la marche du 17 novembre.
Nous voulons l'alternance. On veut dégagement. Il n'a pas dégagé. On en a assez. Qu'il fasse.
Fort va dégager.
La coalition demande à ses militants et sympathisants de boycotter les législatives du 20 décembre prochain. Elle affirme qu'elle s'engagera dans le processus électoral une fois que les conditions de transparence seront réunies. Brigitte Adjamagbo-Johnson, coordinatrice de la C14, affirme que les actions de la CENI ne peuvent conduire qu'à une mascarade. La manifestation de ce jeudi n'est que la première partie d'une série de 4 baptisée le déluge total. D'autres manifestations sont prévues les 1er, 3 et 4 décembre. Kailosol, Lomé, VOA Afrique.
Parti de Riyad hier soir, le président gabonais Ali Bongo Ondimba est arrivé à Rabat pour y poursuivre sa convalescence après avoir passé plus d'un mois dans un hôpital de Riyad. Nani Talani pour le point.
Le président Ali Bongo Ondimba a été conduit dans un hôpital de Rabat où il poursuivra sa convalescence et sa rééducation pour une durée inconnue et pour une maladie qui n'a jamais été révélée. Aucune image du chef de l'État gabonais n'a été diffusée ni à son arrivée au Maroc ni à son départ de Riyad. Cette absence d'image depuis son hospitalisation à Riyad le 24 octobre suscite des interrogations et des inquiétudes au Gabon. Depuis un mois, les autorités de Libreville ont fait 2 communiqués sur le l'état de santé d'Ali Bongo. D'abord pour annoncer son hospitalisation en Arabie Saoudite, puis pour dire qu'il était dans une phase de recouvrement de la plénitude de ses facultés physiques. La présidence n'a pas annoncé non plus hier son départ de Riyad. C'est Sylvia Bongo Ondimba, son épouse, qui l'a annoncé sur sa page Facebook et plusieurs heures après, le gouvernement a confirmé ce transfert.
Par ailleurs, des syndicats appellent ce jeudi à une grève générale du 10 au 12 décembre prochain pour dénoncer l'absence du président Bongo. Pour la coalition Dynamique Unitaire, cette absence depuis plus d'un mois la prive d'interlocuteurs et empêche de résoudre les problèmes liés aux mesures d'austérité prises par le gouvernement. Elle entend également dénoncer par une marche pacifique le 18 décembre prochain la modification illégale de la Constitution, dit-elle, pour pallier l'absence du chef de l'État. En République démocratique du Congo, une radio proche de l'opposition a été fermée en pleine campagne électorale dans l'est du pays, ont indiqué plusieurs sources, dont une organisation de défense de la presse qui a dénoncé jeudi cette volonté de la réduire au silence. Par ailleurs, au moins un garde a été tué dans des affrontements dans le parc des Virunga, réserve naturelle située en zone de conflit dans l'est du pays. Deux civils ont également été tués. À l'origine de la violence, une attaque menée par des miliciens d'un groupe armé, d'après l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Les sources locales affirment au contraire que des habitants manifestaient devant le siège de cet organisme gestionnaire du parc contre une mesure prise à leur encontre. Toujours en République démocratique du Congo, une campagne de lutte contre le paludisme a été lancée à Beni, ville de l'est du pays, touchée par une épidémie d'Ebola qui a fait au moins 242 morts selon les autorités sanitaires. Pendant 4 jours, cette campagne vise à distribuer gratuitement des moustiquaires imprégnés et des médicaments contre le paludisme, a précisé cette source. Au Zimbabwe, des milliers de partisans de l'opposition ont défilé à Harare, placés sous haute surveillance à l'occasion de la première manifestation anti-gouvernementale depuis la répression post-électorale en août. Le 1er août dernier, 6 personnes avaient été tuées quand les forces de sécurité avaient ouvert le feu dans la capitale sur des partisans de l'opposition. Ces derniers dénonçaient des fraudes lors des élections générales du 30 juillet remportées par la ZANU-PF au pouvoir depuis l'indépendance en 1980. En Côte d'Ivoire, 11 étudiants ont été blessés, dont certains par balles, mercredi soir à Boaké, lors d'un affrontement avec des gardes pénitentiaires à la suite d'une rixe, selon un nouveau bilan donné ce jeudi par le comité des élèves et des étudiants de Côte d'Ivoire. Un premier bilan avait fait état de 3 étudiants blessés. Cette agglomération d'un million d'habitants avait été la capitale de la rébellion qui avait contrôlé la moitié nord de la Côte d'Ivoire entre 2002 et 2011. Le reggae, musique popularisée dans le monde entier par son icône Bob Marley, vient d'être inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel par l'UNESCO, qui a souligné son message d'amour et d'humanité. L'artiste ivoirien Tikenja Fakoly s'est félicité de cette nouvelle et n'a pas tardé à réagir, soulignant que le combat du reggae était désormais reconnu.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ouverture demain à Buenos Aires du sommet du G20, mais la rencontre annoncée entre le président Trump et son homologue russe Vladimir Poutine n'aura plus lieu. Le locataire de la Maison Blanche vient de l'annoncer via Twitter, Abdourahmane Dia.
En route vers la capitale argentine, où se tient à partir de demain le sommet du G20, le président Trump a expliqué sa décision par le fait que les navires ukrainiens saisis par la marine russe la semaine dernière ne soient toujours pas relâchés. Cet incident en mer avait provoqué une subite remontée de la tension entre la Russie et l'Ukraine, qui a déclaré hier la loi martiale. Et pourtant, ce matin, le porte-parole du Kremlin avait déclaré que les présidents américains Donald Trump et russe Vladimir Poutine allaient bel et bien se rencontrer à Buenos Aires. Par ailleurs, en marge de ce sommet, le président Trump aura un entretien séparé avec son homologue chinois Xi Jinping pour discuter des tensions commerciales entre les deux pays. La présence du prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman et du président turc Recep Tayyip Erdogan rend inévitable la question du meurtre du journaliste Jamal Khashoggi dans le consulat saoudien à Istanbul. Autre sujet brûlant, le Brexit. La première ministre britannique est en pleine offensive pour vendre à ses compatriotes le projet d'accord de divorce avec l'Union européenne.
Aux États-Unis, le nombre d'immigrés sans papier est tombé à 10,7 millions, au plus bas depuis l'année 2004, selon une étude d'un institut de recherche basé sur des statistiques gouvernementales américaines de 2016. Cette baisse est attribuée à une chute du nombre de Mexicains entrant aux États-Unis. La promesse de campagne du président Trump de construire un mur à la frontière avec le Mexique n'est toujours pas réalisée. Au Proche-Orient, Médecins sans frontières alerte, selon son dernier communiqué publié ce jeudi, un millier de Palestiniens blessés ces derniers mois à Gaza par des tirs israéliens lors de manifestations et heurts le long de la barrière séparant Israël de l'enclave palestinienne souffrent d'infections qui menacent de les laisser handicapés à vie. Israël et le Hamas se sont livrés à trois guerres à Gaza depuis 2008. Les tensions des derniers mois ont fait craindre un nouveau conflit. Un cessez-le-feu a cependant été conclu le 13 novembre après la plus sévère confrontation depuis la guerre de 2014. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Voilà pour l'actualité économique en Afrique. On en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nani Talani.
La Côte d'Ivoire accorde à tout opérateur de la filière EVIA une autorisation exceptionnelle d'exportation de tasses d'EVIA entre le 15 mars et le 31 décembre 2018. Afin d'absorber toute la production locale, le gouvernement ivoirien appuiera aussi les initiatives des opérateurs visant à accroître la capacité nationale d'usinage. La société sud-africaine Karan Beef, qui gère le plus grand parc d'engraissement de bétail en Afrique, prévoit d'exporter la viande de bœuf vers la Malaisie, selon l'agence de presse Bloomberg. Début 2019, elle devrait se soumettre à une vérification de la part des autorités malaisiennes pour assurer qu'il répond aux normes de production halal. Terminons avec le prix du baril de pétrole qui est tombé sous la barre des $50, une première depuis octobre 2017. La perspective d'un surplus d'offres inquiète les marchés à une semaine d'une réunion de l'OPEP. La référence américaine du brut est tombée à $49.41. La référence américaine du brut est tombée à $49.81. En Europe, le baril de référence est tombé à $57.50 également à son plus bas niveau depuis octobre 2017. À Londres, le baril de Brent est tombé à $58.11 en baisse de 65 cents.
C'est le moment de la page sportive qui nous est présentée ce soir par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Ikea, bonsoir à tous.
La CAF va examiner demain à Accra la question de la CAN 2019 au Cameroun.
Oui, le comité exécutif de la CAF va se réunir dans la capitale ghanéenne à marge de la CAN féminine. Un compte-rendu des deux dernières visites d'inspection sera exposé au comité exécutif de l'organisation africaine au cours de la réunion. Les inspecteurs de la CAF ont effectué récemment une inspection sécuritaire et une autre sur les infrastructures, stades et hébergements au Cameroun. Après la réunion des dirigeants, une décision sera rendue sur le maintien ou non de la CAN 2019 au Cameroun, d'après un responsable de la CAF qui n'a pas précisé quand exactement cette décision serait rendue. Il sera aussi question du cas de la Sierra Leone suspendue par la FIFA et qui a manqué les trois dernières journées des éliminatoires de la CAN 2019 et du format des éliminatoires des CAN 2021 et 2023, ainsi que de ceux de la Coupe du Monde 2022.
Le Sénégal a détrôné la Tunisie à la tête du classement FIFA Zone Afrique.
Et oui, les Lions de la Teranga ont dépassé les Aigles de Carthage, battus à deux reprises ce mois de novembre. Grâce à ces deux succès, le Maroc s'est hissé quant à lui sur le podium continental. La suite de la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2019 et quelques rencontres amicales ont occasionné ce changement de leader au niveau africain. Peu de changements en revanche au plan mondial, la Belgique a conservé son avance en tête devant la France.
Un long dimanche de derby en première ligue.
Arsenal, Tottenham, Chelsea, Fulham et Liverpool, Everton. La 14e journée du championnat d'Angleterre est très attendue avec trois passionnants derbys au programme. En cas de succès, les Gunners 5e avec 27 points peuvent rejoindre les Spurs 3e avec 30 points. Liverpool 2e, 33 points essaiera de suivre la cadence infernale des Citizens contre Everton. Chelsea jouera de son côté pour retrouver le podium podium duquel il est tombé à la journée précédente après sa défaite 3-1 contre Tottenham. Bien avant, samedi, Manchester United se déplace à Southampton à la quête d'un premier succès en championnat en plus de 3 semaines.
Choupo-Moting cambriolé pendant le match contre Liverpool.
Oui, l'attaquant camerounais du PSG a été cambriolé avec 600 000 euros d'effets volés pendant qu'il jouait au Parc des Princes contre Liverpool hier, selon une source policière. L'appartement d'Éric Maxime Choupo-Moting est situé dans l'ouest de Paris. Le PSG s'est imposé 2-1 à l'issue de la rencontre.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et Kabadou, toujours en votre compagnie, place à présent au dossier du jour. Les dirigeants mondiaux se préparent pour un sommet du G20 vendredi à Buenos Aires, un sommet qui risque d'être mouvementé. Cette réunion de 2 jours s'inscrit en effet dans un contexte difficile de guerre commerciale et de zones de tension allant de l'Ukraine, le Moyen-Orient jusqu'à la mer de Chine méridionale. Le récit est de Raïssa Girondin.
Le décor est planté pour un sommet mouvementé, alors que les dirigeants des 2 plus grandes économies du monde se rencontrent en pleine guerre commerciale. Le président américain Donald Trump a menacé de relever les droits de douane de 10 à 25% sur les importations chinoises pour 200 milliards de dollars. Il a mis en garde contre une augmentation des tarifs si aucun accord n'est conclu avec Beijing sur des questions telles que les déséquilibres commerciaux et la propriété intellectuelle. La Maison-Blanche estime qu'elle doit maintenir son élan en vue d'un nouvel accord. La Chine, de son côté, met en garde contre de graves conséquences si la guerre commerciale s'intensifiait. Cui Chenkai, ambassadeur de Chine aux États-Unis.
Au siècle dernier, nous avons eu 2 guerres mondiales et entre elles, une grande dépression. Je ne pense pas que quiconque devrait essayer de répéter l'histoire.
Le premier sommet des dirigeants du G20 s'est tenu après la crise financière mondiale de 2008. Tristan Naylor, London School of Economics.
Une décennie plus tard, la plus grande menace qui pèse sur l'ordre économique établi vient en fait de manière surprenante du principal défenseur de cet ordre avec des guerres commerciales protectionnistes lancées par le président Trump et sa politique étrangère de l'Amérique d'abord.
Les tensions géopolitiques sont également sous-jacentes. La réunion a lieu quelques jours après que la Russie a percuté et saisi plusieurs navires ukrainiens au large de la Crimée. Kiev dit que l'incident s'est produit dans les eaux internationales. Mercredi, Poutine a accusé l'Ukraine. Vladimir Poutine, président russe.
Qu'est-ce que la force de contrôle des frontières était censée faire? Des navires militaires sont entrés illégalement dans les eaux territoriales de la Fédération russe.
Le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman, impliqué dans le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi à Istanbul le mois dernier, et le président turc Recep Tayyip Erdogan seront aussi présents au sommet du G20. Selon M. Naylor, il est essentiel que le sommet soit considéré comme une avancée sur les principaux défis mondiaux.
Si ces pays ne peuvent pas s'entendre, cela envoie le signal très fort de tous ceux qui ne sont pas autour de la table qu'ils n'ont pas besoin d'y adhérer.
Des milliers de manifestants antimondialistes se sont déjà rassemblés à Buenos Aires. 22 000 policiers sont déployés dans la capitale, alors que certains des combats les plus acharnés pourraient bien avoir lieu à l'intérieur du sommet.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Plusieurs centaines de personnes étaient dans les rues aujourd'hui à Ouagadougou et dans plusieurs villes du pays. Un appel de la Coalition contre la vie chère, une organisation de la société civile, pour dire non à l'augmentation des prix des hydrocarbures. Le gouvernement rassure qu'il va se pencher sur la revendication de la capitale burkinabé, notre correspondant Lamine Traoré.
La patrie ou la élèves, étudiants, travailleurs, particuliers, hommes, femmes, vieux. Ils étaient plusieurs centaines dans les rues et devant la bourse du travail à Ouagadougou. Tous étaient là pour protester contre l'augmentation de 8 novembre de 75 francs CFA des prix des hydrocarbures. Khalifa Kombéré, un des marcheurs.
La ville est devenue chère. Nous-mêmes, on se cherche maintenant.
Alors, vous voulez qu'on baisse les prix.
Les prix descendent, les prix de manger.
Les explications du gouvernement n'ont pu convaincre Fatima Tawatara.
L'augmentation du carburant, c'est bien vrai que le gouvernement est sorti parler, mais jusque-là, on a vu que ça ne va toujours pas. On n'arrive pas à joindre les deux bouts. C'est pour cela qu'on voudrait quand même leur demander de voir quand même. C'est la première fois que nous, notre service de femmes se lève pour marcher.
Les marcheurs se sont dirigés jusqu'au ministère du Commerce. Là, ils ont remis une note à transmettre au président du FASO. Le mouvement citoyen, la CCVC, dit lutter pour les meilleures conditions de vie des Burkinabés. Chrysogome Zougmore, responsable de la CCVC.
Il s'agit d'une manifestation d'envergure nationale. À l'heure où je vous parle, sur l'ensemble du territoire national, les CCVC locales organisent le même type de manifestation et vont également adresser la plateforme de la CCVC à l'ensemble des autorités locales. Il s'agit là de la manifestation d'un mouvement citoyen qui veille sur les conditions de vie des Burkinabés. Comme vous le savez, la CCVC a été créée pour veiller à ce que les conditions de vie des Burkinabés s'améliorent.
Face à cette mobilisation, le gouvernement semble jouer balle à terre. Haruna Kabore, ministre du Commerce.
Je voudrais vous rassurer que je vais transmettre dès aujourd'hui même la plateforme en main propre donc à son excellent monsieur le Premier ministre. Nous allons donc nous employer à trouver les réponses idoines dans l'intention donc de l'ensemble des populations.
Les organisations de la société civile, les syndicats, les partis politiques de l'opposition disent ne pas baisser la garde. Ils attendent de voir la réaction du gouvernement avant de passer à la vitesse supérieure. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Un fléau fait des ravages en Afrique. Il s'agit des faux médicaments qui causent la mort de dizaines de milliers de personnes chaque année. Un rapport rendu public récemment appelle à de meilleures méthodes de suivi et de renforcement des lois afin de réduire le nombre de décès dus aux médicaments contrefaits en Afrique de l'Ouest notamment. John Lydon nous en dit davantage.
Des vendeurs ambulants qui sillonnent les rues, un phénomène habituel dans plusieurs villes africaines. Celui-ci traîne une valise pleine de médicaments, ou plutôt de faux médicaments. Et si ces médicaments ont le vent en poupe, c'est grâce à leur coût peu élevé. Moustapha Dien, un client.
Je suis allé à l'hôpital, j'avais mal au ventre, on m'a fait une ordonnance. Je suis allé à la pharmacie. Donc la pharmacie, j'ai trouvé que l'ordonnance, l'argent qu'ils m'avaient dit, c'est trop cher.
Dans la plupart des cas, les médicaments vendus sont contrefaits et ne peuvent donc empirer la situation du malade. Selon un rapport financé par l'Union européenne, près de la moitié des médicaments contrefaits ou de qualité médiocre signalés à l'Organisation mondiale de la santé entre 2013 et 2017 se trouvaient en Afrique subsaharienne. Des médicaments principalement fabriqués en Chine, en Inde, au Royaume-Uni et dans bien d'autres pays, comme le souligne Robert Kongo, vendeur des médicaments de rue burkinabé.
Quand on vend, ça vient partout. Il y a produits chez nous ici, au Burkina, ici. Il y a Nigeria, il y a Lagos, il y a Ghana. Bon, il y a partout.
Chaque année, des médicaments antipaludiques de qualité inférieure ou faux causent la mort de 64 à 158 000 personnes. En Côte d'Ivoire, les autorités ont annoncé le mois dernier avoir saisi près de 400 tonnes de faux médicaments au cours des deux dernières années. Pour sensibiliser le public sur les dangers des faux médicaments, des campagnes ont été lancées. Le docteur Aimé Oumar Koué, membre du Comité national de lutte contre le trafic de faux médicaments.
Il faut dire que, apparu en 1980, le fléau des médicaments de la rue a pris beaucoup d'ampleur dans notre pays. un médicament sur trois se trouve dans le secteur illicite. Donc on a 30% de la part du marché qui appartient aux médicaments de la rue.
L'Afrique importe 70% de ses produits pharmaceutiques et le commerce des faux médicaments a généré près de 30 milliards de dollars en 2017.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Il faut plus de 450 années pour que les sacs en plastique se décomposent. En attendant cette échéance, ils polluent rivières et mers, bouchent les caniveaux et les égouts. Ils tuent les animaux qui les ingèrent et les intoxiquent et intoxiquent les humains. C'est pour cette raison qu'Achille Noussia a conçu des sacs totalement écologiques à partir de matériaux recyclés. Le produit baptisé Civic Bag est un sac à usage multiple qui a l'ambition de responsabiliser les citoyens concernant la protection de l'environnement. Rendons-nous à Lomé avec Olivia Gakima pour le rencontrer.
L'initiative Civic Bag a été lancée en 2016 par Achille Noussia avec pour objectif de trouver une alternative pour les sacs en plastique, étant donné que le gouvernement avait banni la production et la commercialisation de ces sacs. Il a commencé à produire des sacs en papier en recyclant des sacs de ciment.
Je dirais que nous sommes partis d'un constat. Le constat, c'est la surabondance des sachets plastiques dans notre environnement. Ces sachets, une fois dans notre environnement, vous savez tout le mal que cela cause et tout le temps que ces sachets passent dans l'environnement avant de disparaître. Donc nous nous sommes dit, en tant que citoyens actifs, il faut qu'on arrive à trouver une solution à cela. Je rappelle en passant qu'au Togo, en 2011, les autorités ont pris un décret qui interdisait la production et la commercialisation de ces sachets-là. Mais il n'y avait pas tellement d'alternatives pour amener le citoyen à cesser de les utiliser.
Les sacs Civic Bag ont été un succès parce qu'ils ont comblé un vide qui avait été laissé par l'interdiction des sacs en plastique. Désormais, les citoyens ont une option viable.
Nous, on encourage vraiment l'initiative parce que ce sont des sacs très pratiques, confortables. Nous, on les utilise tout le temps pour nos livraisons, puisque nous livrons des repas, nous vendons des trucs. Donc, on les utilise. Et aussi, je pense que c'est une bonne idée dans le sens que ça permet d'éviter la pollution et ça remplace les sachets noirs, en fait.
La demande pour les sacs Civic Bag est tellement abondante que la société en produit plusieurs centaines par jour pour satisfaire ses clients.
L'impact, je dirais d'abord globalement, c'est positif. Parce que pour le Togolais lambda, il y a beaucoup qui n'ont jamais imaginé qu'on peut prendre le papier ciment et en faire un sac. Pour eux, le papier ciment, ça s'utilise en coupon, soit comme papier toilette, soit pour emballer des beignets, des brochettes et des arachides. Nous sommes parvenus à le transformer en sac, qui plus est individuel. Ça les a d'abord émerveillés et ils ont trouvé qu'au-delà des sachets, il y a la possibilité d'utiliser des sacs en papier qui répondent parfaitement à nos besoins quotidiens.
L'initiative a remporté plusieurs prix, notamment le prix PP Togo en 2017, le premier prix du concours de start-up organisé dans le cadre du Forum international pour le développement FIDEA 2017. Achille Noussia a aussi été reconnu comme jeune entrepreneur influent de l'année 2017, ayant décroché le deuxième prix dans cette catégorie.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque jeudi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, African Music. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
I be ballin' like I'm pro.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À la mise en onde, Cheikh Tiro, à la console, Michael Dubunski, à la présentation, Ikia Badou. On reste connectés sur Facebook et sur votre site voafrique.com pour plus d'actualités. Excellente suite de programme à l'écoute de VOA Afrique.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.